Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendants. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Bienvenue dans votre nouvelle émission Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs noirs afro-descendants sur Radio Campus Paris. Je suis Estelle Keïta, votre host. Rubis Noir du jour est une véritable experte de la nutrition. Le docteur Séjean, nutritionniste, nous dévoile son parcours pour ceux et celles qui souhaiteraient s'aventurer dans des études de nutrition, mais également des conseils précieux pour mieux comprendre l'alimentation et ses bienfaits sur notre corps. Bonjour, docteur Séjean, Marie-Antoinette.
Bonjour Estelle.
Merci. C'est un plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes nutritionniste. Quelle est la différence entre le métier de nutritionniste et de diététicienne ?
Alors, la différence entre nutritionniste et diététicienne, c'est qu'en fait, un nutritionniste, c'est comme si c'était une super diététicienne. Voilà. Après, il y a une différence entre être médecin nutritionniste et être nutritionniste. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose.
Quand on est médecin, eh bien, on a fait au moins 7, à mon époque, 7 à 9 ans d'études. Aujourd'hui, c'est encore plus. Et après, on fait une spécialité. Aujourd'hui, pour être nutritionniste, médecin nutritionniste, il faut même passer l'internat, puisque la nutrition est passée en spécialité. Voilà. Une diététicienne, c'est une personne qui fait à peu près l'équivalent d'un master 2, je pense, actuellement, c'est-à-dire 4 ans d'études. Et après, elle peut se spécialiser en nutrition. Alors, pour dire clairement les choses, la diététique, c'est l'étude des régimes, c'est la prescription d'un régime, et la nutrition, c'est plus la compréhension de ce que l'impact de l'alimentation sur le corps et la compréhension de ce que va faire cette alimentation du côté de la bonne santé et du côté de la mauvaise santé.
Ok, très bien. Et ça fait combien de temps que vous êtes nutritionniste ?
Ben, ça fait longtemps parce qu'aujourd'hui, je suis un médecin, je suis une jeune retraitée, mais qui continue d'être active. Donc, je suis médecin nutritionniste, je pense, depuis que j'ai ma deuxième fille à peu près. Donc, ça doit être depuis 1988-89. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qui n'étaient pas encore nés.
Pourquoi vous avez choisi de devenir nutritionniste ?
Ben, je pense que c'est...
Qu'est-ce qui vous a poussé à... Pourquoi ? Enfin, parce que ce n'est pas quelque chose, on va dire, d'habituel. Hein. Généralement, les gens ils disent dentiste, ophtalmologue, enfin bref. Et vous, nutritionniste, pourquoi spécifiquement ?
Alors, c'est un parcours personnel, peut-être parce que je suis originaire de la Martinique. Et en fait, j'avais une grand-mère qui, pour mon brevet, elle m'a donné un billet de 5 francs en pensant me donner un billet de 50 francs. Tout simplement parce qu'elle était aveugle à cause du diabète. Et moi, j'étais très jeune, je devais avoir 14-15 ans. Et je me suis dit à cette époque, oh là là, quelle maladie dramatique dont toute ma famille souffre en fait. Et je me suis dit, mais je pourrais jamais, j'accepte pas que cette maladie puisse être aussi importante et affecter ma famille. Ça, c'était la première chose. Après, dans la nutrition, il y a beaucoup de choses qui concernent la nourriture. Et j'ai mes deux grands-mères, en fait, j'ai une grand-mère qui était cuisinière et qui était même pâtissière aussi. Elle a eu un moment une échoppe dans laquelle elle vendait des gâteaux. Et l'autre grand-mère, en fait, elle vendait du poisson, elle était marchande de poisson. Donc, vous voyez, j'étais vraiment ancrée dans la nourriture depuis toute petite. Plus aussi dans cette pathologie qui, après, a atteint mon papa, ses sœurs, ses frères, voilà. Donc le diabète est une pathologie qui peut se soigner en grande partie par la nutrition.
J'ai vu que vous aviez beaucoup de diplômes. Diplôme de journalisme et de communication médicale, diplôme en nutrition du sport. Est-ce que c'était nécessaire finalement de faire tous ces diplômes ?
À mon époque, il n'y avait pas de spécialité et en fait, on était pratiquement des précurseurs. Moi, je me rappelle qu'il y a un professeur qui me dit « Mais nutrition, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Comme si je lui parlais d'un truc qui n'existait pas. Et en fait, on était vraiment des précurseurs. Donc à l'époque, on faisait des diplômes universitaires. Et moi, j'étais partie faire un premier diplôme à Nancy. Après, j'en ai fait 2 à Paris. Après, en même temps, j'ai fait un diplôme d'oligothérapie, aromathérapie. Et puis, je pense que, peut-être comme certaines personnes, pour me prouver que j'étais, donc j'ai passé beaucoup de diplômes parce que à l'époque je m'assimilais à mes diplômes, que pour moi que quand je faisais un diplôme et que je validais ce diplôme, je suis diplôme effectivement en journalisme et communication médicale, je suis aussi hypnothérapeute en fait, bon, oui. Puis il y a plein de diplômes que j'ai pas mis dans mes CV parce que ça n'a rien à voir avec la médecine, mais c'est vrai que j'aimais, c'était, je pense, beaucoup de personnes pensent qu'elles sont leurs diplômes. Et moi, j'étais jeune, c'était dur. Il n'y avait pas beaucoup de Noirs à l'époque, quand j'ai commencé à travailler. J'étais la seule Noire, hein, dans mon campus à Strasbourg. Ouais, il y avait quelques Africains, peut-être 4-5 garçons, mais il n'y a aucune fille. Et j'étais la seule fille Noire. Donc, si vous voulez, c'était important peut-être de prouver que j'étais capable. Je pense que c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de diplômes, comme beaucoup de gens de mon époque d'ailleurs. Oui. Maintenant, c'est plus pareil, je pense.
Mais vos parents vous ont encouragé et...
C'est-à-dire que ça s'est passé au fil du temps. Mes études, mes parents m'ont déjà aidé financièrement parce que les études de médecine, c'était très lourd. Avoir un enfant qui va faire 7-8 ans d'études, c'est difficile, il faut payer. Ma mère, j'avais encore 2 autres frères. Je me rappelle que ma mère, pratiquement son salaire passait dans nos études. Bon, parce que eux, ils vivaient en Martinique. On était tous les 3 ici dans l'Hexagone. Fallait déjà payer les chambres universitaires, etc. Moi, j'avais pu avoir une bourse. Puis j'ai aussi rapidement fait ce qu'on appelle un prêt d'honneur. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est un prêt préférentiel avec la banque, avec un taux préférentiel et qu'on doit rembourser dans les 5 premières années quand on commence à travailler.
Ah, d'accord. Voilà.
Okay. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais bon, peut-être qu'on doit pouvoir négocier ce genre de choses avec sa banque. Si on a un métier où on est sûr de bosser, je pense que la banque ne doit pas dire non, en fait.
Vous dites que vous étiez donc la seule femme noire. Vous avez subi du sexisme, du racisme durant vos études, durant votre parcours?
Alors, on va dire que...
Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué ou non?
Je crois qu'en fait, il y a déjà un positionnement. C'est-à-dire que si on se positionne en se disant qu'on est égal aux autres, la manière dont on se positionne va faire qu'on sera moins harcelé. Et il y a aussi au niveau socio-économique, je pense que le racisme peut s'exprimer davantage quand on est dans les couches sociales un peu plus basses. Notamment, pour me payer mes études, j'ai été fille de salle, j'ai été aide-soignante, j'ai été infirmière. Et à tous ces niveaux-là, il y a quand même une autre manière, les gens s'expriment différemment. Quand vous êtes fille de salle, que vous êtes noire, vous êtes carrément transparent. Après, aujourd'hui, je suis médecin, je suis noire, ça a moins d'importance. Voilà, ça a moins d'importance parce que premièrement, bon, il y a une telle visibilité sur le moteur de recherche. On va voir que je suis noire. Quand on prend rendez-vous sur la plateforme de rendez-vous, on va voir que je suis noire. Alors, certaines personnes encore
ont du mal.
C'est que... n'ont pas regardé qui j'étais. Donc, quand j'arrive, j'ouvre la porte et ils me disent « Où est le médecin ?» Comme si je suis la secrétaire. Ça, ouais. Ça m'arrive encore. Ouais. Hein. J'ouvre la porte, ils disent « Je cherche docteur Séjean. » En fait, c'est moi. Mais je leur dis « Mais non. » Ou bien j'ouvre la porte parce qu'il y a d'autres médecins qui sont là. Ils me prennent pour la secrétaire des autres médecins. Donc, ouais. Moi, ça ne m'est pas inconfortable parce que je remets la personne avec une petite pirouette. Je dis non, je suis médecin et j'ai ouvert la porte pour mes confrères. Mais voilà, puis ça remet les choses en place. Voilà.
Oui. Ça ne vous met pas mal à l'aise?
Non, parce que je pense que de ce côté-là, je crois que... Vous savez, j'ai vécu enfant très jeune en France. Hein. Moi, j'ai vécu de 6 ans à 13 ans. J'ai vécu pratiquement toute ma petite enfance. C'est que de 13 ans à 18 ans que j'ai vécu aux Antilles. Et plus mon internat après. Donc, c'était encore pire. Moi, quand j'étais à Strasbourg, il y a des gens qui me léchaient, qui frottaient ma peau pour savoir si ça déteignait. Donc, moi, j'ai connu ça. Donc, après... je veux dire,
c'est tellement ridicule.
Après, je pense que c'est à la fois une xénophobie, c'est-à-dire la peur de l'autre, et puis à la fois une grande inculture, parce que quand quelqu'un vient dans la rue pour mettre de la salive sur sa main pour voir si tu déteins, c'est
mais en Martinique, il y a des personnes...
Non, c'était quand j'étais enfant, parce que j'ai vécu en France.
Oui, mais en Martinique, il y a quand même des touristes, des personnes blanches qui venaient en Martinique. Donc, ils ont déjà vu et des personnes noires.
Non, mais c'est cette histoire de me toucher pour savoir si je déteignais, ça s'est passé quand j'avais 6 ans et quand j'étais à Strasbourg, pas en Martinique. Voilà. Okay. Donc, à Strasbourg, j'ai connu quand même le racisme quand j'étais enfant. Enfin, alors là, il y avait encore moins de noirs. Il y avait encore moins de noirs. Là, quand je suis allée au campus, j'avais déjà 18 ans. Mais alors, quand j'avais 6 ans, alors là, il y avait vraiment... presque pas de noirs. Mon père était militaire, c'était essentiellement les militaires qui étaient noirs.
Oui.
Voilà, c'était tout. Hein. Mais il n'y avait pas de noirs à Strasbourg. Donc, mes parents étaient très actifs, ils ont monté des associations et tout ça. Et puis on s'est intégrés finalement.
Et ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé.
Dans votre patientèle, vous avez plus de personnes noires ou de personnes blanches ? Est-ce que la communauté afrodescendante est éduquée à tout ce qui est nutrition et diététique ?
Alors, d'une manière générale, un médecin ou un n'importe quel thérapeute, on a quand même ce qu'on appelle une patientèle qui nous ressemble. C'est-à-dire que, par exemple, là, je viens de changer de cabinet et je suis sûre qu'ils n'ont jamais eu autant de noirs dans la salle d'attente. Les nouveaux. Mais en fait, mes nouveaux collègues, pour eux, ils ont plus regardé, comme ils m'ont dit, mon énergie.
Oui, ouais.
Ils n'ont pas regardé la couleur de ma peau. Mais c'est vrai que forcément, j'ai plus de personnes noires dans ma salle d'attente, mais aussi des personnes qui viennent des pays du Sud, des personnes qui sont originaires du Maghreb. J'en ai beaucoup. Et puis, j'ai même des gens qui ne sont pas noirs, mais qui sont italiens, espagnols et tout ça.
Les méditerranéens,
qu'ils sont,
ouais.
Voilà, parce qu'ils sont animés, ils disent « Oh, cette fille, ils me regardent !» Et ils me disent « Non, mais elle ne va pas nous donner un régime où on va manger deux haricots verts avec, avec deux coquilles Saint-Jacques. » On sent qu'elle aime manger, donc il y en a beaucoup qui viennent pour ça. Mais après, dire que les Afro-Caribéens sont éduqués, écoutez, je pense que l'éducation, c'est progressif, voilà.
Okay.
Mais ce ne sont pas eux qui me font vivre. J'ai quand même plus de blancs, effectivement. Ce sont eux, les personnes qui sont plus caucasiennes, qui vont m'apporter de l'argent, en proportion.
Oui.
Mais j'aime beaucoup avoir les patients afro-caribéens. C'est très agréable. Et ça arrive parfois que j'ai trois noirs qui se suivent l'un après l'autre. Alors j'ai dit, oh super, j'ai dit aujourd'hui, j'ai une consultation du soleil. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà.
Après, peut-être que c'est parce qu'aussi, on ne met pas ça en priorité.
Ah oui, c'est vrai que souvent la priorité pour une jeune femme noire aujourd'hui, ça sera plus ses cheveux, ça sera son look, la peau.
Mais ça va avec la nutrition.
Oui, alors après, c'est une question d'évolution parce que moi, je suis confiante. Je suis confiante. Je suis confiante qu'il y a des évolutions. Il y a de plus en plus d'influenceuses noires et même des influenceurs qui parlent de nutrition, des noirs que je suis comme ça sur les réseaux.
C'est vrai ?
Oui, il y en a beaucoup. Et qui parle très bien des jeunes. Je trouve que c'est bien. En fait, il suffit d'aller comme ça. Moi, je suis collaboratrice avec une fille qui s'appelle Amaka. Enfin, sa chaîne, c'est Amaka, A-M-A-K-A Nutrition. Et elle est extraordinaire. Elle est d'une pugnacité. Elle poste depuis le Cameroun.
Okay.
Et elle est très suivie, voilà, parce qu'elle dit des choses très bien. Elle a fait des études de nutritionniste, justement. Et elle est extraordinaire. Je trouve qu'il y a vraiment... Ça bouge.
Ça bouge. Il y a une évolution. Il est temps de faire une pause musicale avec Michael Jackson.
Ah, j'adore.
On dans un instant.
J'adore. See you running often through.
just like a baby. Since your disguise, I can't help but love you. It's getting better all the time. I can't help it if I wanted to. I wouldn't help it even if I could. I can't help it if I wanted to. I wouldn't help it, no.
C'était Michael Jackson, I Can Help It.
Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendants. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Retour dans Les Rubis Noirs, votre émission sur Radio Campus Paris 93.9 FM en DAB et sur le canal Campus. Toujours avec le docteur Séjean, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, il y a de nombreux défis auxquels les jeunes adultes sont confrontés aujourd'hui en termes alimentaires. Mm-hmm. Quels sont les principaux défis auxquels les Français, en particulier les jeunes, font face aujourd'hui vis-à-vis de leur hygiène alimentaire?
Alors, quand ce sont des jeunes, moi je te dirais, Estelle, il y a beaucoup de jeunes qui viennent tout simplement, pas spécialement ni pour maigrir ni pour grossir, mais parce qu'ils ne savent plus comment manger. Ils savent plus. Moi, j'ai des nouvelles consultations que je n'avais pas avant. J'ai des gens qui viennent, ils me disent, je suis perdue. Ils sont minces, ils sont beaux, ils sont apparemment en bonne santé. Ils me disent, je suis perdue, je ne sais pas quoi mettre dans mon assiette. Et ça, c'est quand même un défi de manger équilibré. C'est quand même déjà un défi. Bon. Après, la consultation de nutrition, elle est, on va dire, à 70%, elle est axée sur le fait de vouloir perdre du poids ou sur le fait de vouloir améliorer sa silhouette.
Oui.
Par exemple, il y a des filles qui viennent me voir parce qu'elles ont plutôt de la cellulite. Il y en a d'autres qui viennent me voir tout simplement parce qu'elles sont en surpoids.
Oui.
Et puis, le troisième défi qu'il y a, c'est vraiment le confort digestif, être bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'allergies, il y a une telle malbouffe, un tel stress aussi, pas que la malbouffe, hein, le stress, ça impacte beaucoup le corps. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont un inconfort digestif. C'est-à-dire que quand ils mangent, ils ont mal au ventre, ils ont
les intolérances.
Des intolérances, voilà. Beaucoup, okay. Beaucoup. À cause de la malbouffe, parce que ça va générer une hyperperméabilité intestinale, une grande fragilité. Et les aliments, au lieu d'être évacués, vont rentrer dans le corps. Et à ce moment-là, on aura des intolérances. Et chez nous, les personnes afro-caribéennes, de toute façon, on a beaucoup d'intolérances au laitage.
Ah ouais?
Oui, beaucoup, beaucoup plus que les caucasiens. D'ailleurs, tous les mélanodermiques, hein, pas que les afro-caribéens, les chinois aussi, les indiens aussi, ouais, tous les gens qui sont... Ben, je pense que c'est parce que c'est plutôt ethnique, c'est génétique. Voilà. Ils ne fabriquent pas de lactase, qui est l'enzyme qui digère le lait. Et ce qui fait que, en fait, ces personnes-là font beaucoup d'intolérance au laitage. Et puis, il y a aussi des intolérances au blé qui sont de plus en plus fréquentes. Donc, souvent, on parle du gluten parce que le gluten est contenu dans le blé. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup de gens sont intolérants au blé. Et puis, il n'y a que chez nous, quand on est des Afro-Caraïbes, on a, on a envie, on a l'habitude de manger, mettre plein de choses dans notre corps, de mettre des féculents. Donc ici, comme on n'a pas forcément les ignames, les bananes plantains, tout ça, on va mettre des pâtes, quoi, et en grande quantité. Oui. Et du coup, ça va vraiment générer des problèmes d'inconfort digestif.
Mais voilà. Toi, tu es intolérante au lactose ou...
Ah ben moi, je mange pratiquement pas de yaourt.
C'est vrai?
Très, très peu. J'en mange un petit peu. Je mange du fromage très peu, mais j'en mange pas, presque pas. Vraiment.
Ça, c'est quoi ta routine? Tu manges beaucoup de fruits, de légumes?
Alors, ma routine, c'est que déjà, bon, après, il y a plusieurs manières de fonctionner. Moi, le matin, soit je ne mange pas du tout et je bois beaucoup d'eau, parce que je pratique le jeûne intermittent, ou sinon, je pratique ce qu'on appelle plutôt le jeûne de sucre, c'est-à-dire que je mange un peu salé, mais je ne vais pas manger spécialement de féculents le matin. Et ma dernière routine que j'ai trouvée, parce que je trouve qu'elle me tient bien au corps, c'est que j'ai de la farine de manioc. Alors, donc, c'est un petit peu des antilles que je mélange avec un œuf et je me fais une espèce de gros blini, là, et ça me tient bien.
C'est
bon, vrai. On a des petites routines, chacun. Après, le midi, ben, je mange assez léger parce que pour pouvoir être vif. Donc là, effectivement, je mange plutôt une protéine avec des légumes. Pour ne pas avoir faim, je me fais une entrée, puis... les protéines avec les légumes. Parce que si je mange que des protéines avec les légumes, moi, je suis une vorace. Je vais avoir faim. Et puis, je mange effectivement des fruits. Et le soir, c'est...
Tu manges léger?
Non,
vous mangez léger?
Le soir, personnellement, comme j'ai mangé très léger le midi, c'est le soir que je vais manger mes féculents. Parce que pareil, je suis une vorace. Si jamais je me couche avec un haricot vert et un steak, si je me lève la nuit pour un petit pipi, je vais aller dans le frigo. Donc...
Mais
je
en fait, sur les
bien
réseaux,
manger le soir.
En fait, sur les réseaux sociaux, ils nous disent « Oui, il ne faut pas trop manger lourd le soir. »
En fait,
les féculents, manger un plat de pâte bolognaise,
ouais,
le soir, tout. Faut pas que ce soit trop lourd, en fait.
Alors,
parce
en
que
fait,
ça empiète sur le sommeil.
Oui, alors c'est une idée reçue. Parce que ce qui va empêcher de dormir le soir, c'est effectivement quand on mange beaucoup de graisse. Mais si, par exemple, j'ai mangé des patates douces qui sont cuites à la vapeur et que j'aurais juste fait sauter ou même cuites à la vapeur, ça va pas. Au contraire, les féculents vont contenir des sucres qui vont faire fabriquer de la sérotonine, qui est un précurseur de la mélatonine, de l'hormone du sommeil. Donc, les féculents, ça peut être bien le soir. Bien sûr, c'est une question de quantité. Faut pas manger, effectivement, comme tu dis, tu vas pas manger la casserole de pâte bolo parce que là, c'est mort, quoi. mais sinon, si jamais le repas contient des féculents et qu'il est équilibré, c'est-à-dire que le soir, je mange des féculents, mais je mange toujours plus de légumes. Voilà. Et ce qui va empêcher de dormir, c'est vraiment effectivement si tu manges beaucoup de viande rouge, des kebabs,
parce qu'il
y a du gras,
de l'huile
et des protéines qui sont très excitantes. La viande rouge est une protéine très excitante et ça empêche de dormir.
C'est vrai?
Ouais. C'est une protéine qui te donne du tonus. Hein. De la prendre à midi, c'est bon. Si quelqu'un a des problèmes de sommeil, vaut mieux éviter de manger de la viande rouge le soir.
Moi, le matin, par exemple, je mange des œufs.
Oui, c'est bien.
Je mange des œufs avec des fruits.
Oui.
Je bois de l'eau.
Super.
Maintenant, c'est vrai que le soir, je mange beaucoup d'oranges.
Oui. Ah
je ne sais pas si c'est...
T'aimes ça?
Ouais. Mais c'est vrai que je suis un peu quand même addict au sucre. En fait, j'essaye de ne pas manger des gâteaux, des trucs comme ça, mais j'arrive pas à tenir pendant deux, trois jours. J'y pense, en fait.
Oui, et surtout les filles, il faut dire que nous, juste avant d'avoir nos ragnagna, on devient des ogresses de sucre.
Oui, c'est clair qu'il faut faire attention. Quoi.
Parce que justement, on a cette fameuse baisse de la sérotonine juste avant d'avoir les règles. Et du coup, on est obsédé par la recherche de sucre. Et,
ouais.
et ça s'explique tout simplement parce que potentiellement, on pourrait être enceinte. Et donc, on fait tout pour que le bébé puisse éventuellement avoir des bonnes calories et tout. Donc, en fait, on fait tout pour qu'il puisse s'installer. Donc, on va manger des choses extrêmement énergétiques de manière à ce que si jamais on était enceinte, on ait le maximum de nutriments énergétiques pour accueillir une grossesse. C'est pour ça qu'avant les règles, on a vraiment la dalle. Quoi.
Et le pain, ça a à bannir?
Alors, moi, je ne mange pas beaucoup de pain parce que justement, tout à l'heure, on parlait du blé, du fameux gluten. pour ce qui me concerne, je préfère plutôt que de mettre le pain, comme je suis afro-caribéenne, je préfère mettre des racines, des ignames, parce que j'aime beaucoup, je mange encore vraiment très local, hein. Je vais dans les épiceries pakistanaises ou africaines, il n'y a pas beaucoup d'épiceries créoles, il y en a une ou deux, mais c'est plutôt pakistanais, africain et chinois aussi, hein, asiatique. Donc là, je vais acheter des bananes plantain, mais nous, les Antillais, on ne les mange pas comme en Afrique, hein. Nous, on les fait juste bouillir.
Ah, comme mais nous, on peut les faire bouillir
ouais,
aussi.
Ouais, ouais, mais sinon, les alocos, là, je ne vais pas me dire que j'ai prescrit des alocos à l'antenne pour pouvoir maigrir. Ou sinon, il faut prendre une petite quantité, quoi.
Ok, ok, très bien. On va parler de tout ce qui est beauté. Mm-hmm. Pour avoir une belle peau, pour avoir de beaux cheveux crépus ou frisés, qu'est-ce qu'il faut manger ? Des carottes Alors, on dit très souvent les carottes, parce que ça contient de la bêta-carotène.
Oui, du bêta-carotène. Oui, c'est ça.
Ou des oranges. Enfin, qu'est-ce qu'il faut en fait ?
Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que le cheveu, en fait, c'est quelque chose de mort. Et que ce qui est vivant dans le cheveu, c'est le bulbe. Donc, le plus important, c'est déjà de bien nourrir le bulbe. Déjà, ne pas l'agresser avec des nattes trop serrées, tu sais, les gens qui se font des tresses, etc. Et qui, on voit bien que devant, il y a perte de cheveux et tout ça. Ça, c'est la première chose, parce que même si tu manges bien, si tu agresses ton cheveu,
ça va servir à rien.
Ça va servir à rien. La deuxième chose, la première carence qui abîme le cheveu, c'est la carence en fer. Chez nous, les Afro-Caribéennes, on a souvent, même très jeunes, des fibromes, des règles hémorragiques. Hein, et beaucoup de filles ont des règles très hémorragiques. Donc là, ça veut dire que là, il faut quand même manger, si on peut, des protéines animales. Hein, donc, plus c'est rouge, plus ça contient du fer. Et puis, les autres carences, effectivement, ce sont les vitamines, les oligo-éléments qu'on va trouver dans les fruits et légumes verts. Voilà. Alors, si on ne mange pas assez, eh bien, parfois, de temps en temps, c'est mieux de faire des cures de fer. Je pense à, des fois, les étudiants, ça leur revient un peu cher de mettre de la viande tous les jours dans leur assiette et tout. Ben, on peut très bien, à ce moment-là, demander à notre médecin de nous prescrire du fer. Ça peut même se trouver directement. Oui. On n'a pas besoin de passer par le médecin. Mais les vitamines qui se trouvent dans les fruits et légumes, alors bien entendu, tu parlais du bêta-carotène, on trouve dans la carotte, on trouve... Alors, il faut savoir que la patate douce, la rouge, hein, bien sûr, hein, elle est beaucoup plus riche, elle est très très riche en bêta-carotène. C'est là l'aliment qui contient le plus de vitamine A végétale, et il permet même, dans certains pays d'Afrique, de permettre aux personnes de ne pas être aveugles, parce que la carence en vitamine A, eh bien, quand elle est très prolongée, elle prononcée, elle peut entraîner ce qu'on appelle une cécité, et la patate douce fait partie de ces éléments extraordinaires.
Mais tu connais par cœur les vitamines et leurs effets, vous apprenez ça à l'école ?
On apprend ça à l'école, et puis après, tu sais, c'est comme pour tout, quand tu es dans un... Regarde, toi, t'es là, t'es à la radio, après tu vas connaître par cœur comment il faut faire, etc. Ça devient une deuxième nature,
oui,
quoi.
Oui,
et puis,
oui,
bien sûr, je dois dire que tous les jours, j'étudie encore, hein.
D'accord.
Tous les jours, je lis un truc de médecine. Tous les jours. Ça, j'avais mon professeur qui m'avait fait passer ma thèse. Il m'a dit, Marie, si tu veux rester performante, tu apprends la médecine tous les jours. Et j'apprends la médecine tous les jours.
Ta thèse, elle portait sur quoi ?
Ma thèse, alors, je l'avais faite en Martinique. C'est parce que j'ai été interne là-bas. Et c'était sur l'insuffisance rénale. Avec toutes les conséquences de l'insuffisance rénale, il faut savoir que la plupart des personnes qui se trouvent en dialyse, donc ça veut dire quand ils sont avec un rein artificiel, avec l'obligation de passer sur une machine pour nettoyer leur corps, eh bien ce sont souvent, même ici dans l'Hexagone, des personnes afrodescendantes, parce que l'hypertension artérielle abîme les reins. Et aussi beaucoup le diabète. Voilà. Donc les afrodescendants et les arabes se retrouvent beaucoup, les maghrébins se retrouvent beaucoup, beaucoup en insuffisance rénale. Oui, vraiment.
Incroyable.
Donc ça vaut bien la prévention, ça vaut quand même.
Tu as écrit plusieurs livres. Comprendre les régimes sans réponse et un autre.
Mince un régime créole. Oui. Alors, c'est mon petit bébé. Hein.
Qui est publié aux éditions Orphi.
Oui, il est publié aux éditions Orphi. Puis, je l'ai fait à un prix tout à fait abordable. Donc, il coûte moins que 15 euros. Avant, il était plus cher. Il était à 23. C'est moi qui négocie avec l'éditeur. Parce que pour moi, je voulais que ce soit un livre qui soit extrêmement vulgarisé, donc pour le plus grand nombre. Et c'est un livre qui est best-seller. Et en plus, l'avantage du régime créole, c'est que en fait, il décrypte toute la diététique avec les produits du terroir des tropiques. C'est le premier livre.
Bien,
ah oui, tu
donc
peux.
Moi aussi, je suis ivoirienne.
Oui.
Donc je peux.
Ah ben, tu peux trouver dedans. Ben, je te l'enverrai. Écoute, ça me fera plaisir de te l'envoyer si tu aimes lire. Je
oui,
sais, tout le monde n'aime
sûr.
Pas lire. Et c'est facile. Donc, si tu trouves, par exemple, que ben, si tu es ivoirienne, bon, tu vois l'igname, ben, tu vas savoir que l'igname va être dans les féculents. Et puis, tu as exactement le taux de sucre qu'il y a dans l'igname, banane plantain, que nous on appelle banane jaune aux Antilles quand c'est mûr. Enfin, puisque ça change un petit peu, mais il y a pas mal de choses intéressantes. Et puis, il y a surtout 130 recettes, donc des recettes pour les gens qui aiment cuisiner, même, et y compris des recettes qui ne sont pas du tout diététiques, parce que je pense que l'équilibre alimentaire, c'est aussi se faire plaisir, c'est pas que manger des courgettes bouillies avec du poisson à l'eau, parce que sinon, ça ne va pas le faire, quoi. Donc, il y a beaucoup de sauces un peu plus allégées, et puis il y a vraiment beaucoup de recettes. Et j'ai mis les recettes de ma grand-mère qui ne sont pas du tout diététiques. Les acras de morue, le tiponche, le planteur, le blanc manger coco. Tu vois, je suis très gourmande. Le flan à l'ananas.
Tu sais cuisiner, du coup.
Ah, j'adore. Moi, c'est vraiment un de mes talents. J'aime beaucoup cuisiner. Et j'ai vécu longtemps avec un grand chef cuisinier qui me disait toujours « Oh Marie, j'adore ta cuisine de ménagère !» J'aime beaucoup cuisiner. Je trouve que la cuisine, c'est convivial chez nous. Hein.
Oui, c'est convivial. Après, moi, j'aime pas qu'on me force à cuisiner, en fait.
Donc, il faut faire ce qu'on a envie de faire.
Puis après... Oui, mais ma mère me dit « Oui, il faut faire la cuisine. » J'aime pas qu'on me force. Donc, je ne prends pas plaisir à faire la cuisine. En fait.
C'est-à-dire que peut-être que quand tu auras des enfants,
peut-être,
c'est jamais...
Oui, voilà.
Ça va venir plus
je
tard.
Je le vois comme une corvée, un peu, en fait.
Mais je comprends. Moi, par exemple, il y a des trucs que j'aime moins faire que d'autres. Voilà, j'aime beaucoup repasser. J'aime moins ranger. Voilà, bon. Après, on a chacun nos dadas. Hein,
mais moi, je suis censée quand même un peu m'intéresser à la cuisine parce que moi, je fais beaucoup de sport. Je m'intéresse énormément aux calories, etc., tu vois.
Ouais.
Mais j'en deviens obsédée. Et d'ailleurs,
il y a des applis hein, quand même, non pour
mais
ça.
Il ne faut pas en devenir obsédée, ouais. Je pense, hein, des calories.
Non. Moi, je ne travaille jamais avec les calories. Moi, je travaille plus avec le métabolisme. Parce que... Et puis en plus, il faut voir que nous, les Afro-Caribéens, on est beaucoup plus lourds, on est plus denses que les Caucasiens. Par exemple, quand tu prends une fille qui fait 70 kilos chez nous, elle a la corpulence d'une fille qui fait 65 kilos. Elle est noire parce que les os sont plus lourds, les muscles sont plus lourds. On a aussi des formes qui sont différentes. On est plus calipiche, ça s'appelle. On a plus de fesses, plus de seins. C'est... Oui. On a quand même une autre forme qui va faire que on est plus lourde et pas forcément plus volumineuse. Voilà.
Oui.
Souvent, moi, je suis très épatée. Il y a des gens, des fois, des garçons, ils viennent me voir, ils font 100 kilos. Mais ils ne les font pas quand tu les vois comme ça. Ils font pas le poids parce qu'ils sont très denses. Donc, faut pas regarder les calories parce que les calories, ça correspond plus à des calories qui pourraient correspondre à des Caucasiens et pas forcément à des Afro-Caribéens. Tout
oui,
ça, c'est
vois.
Pas évident.
On arrive au terme de cet échange. Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans le métier de nutritionniste, en tout cas les Afro-descendants?
Je pense qu'en fait, je dirais que les conseils, ils sont généraux. Il faut quand même aimer la cuisine, quand même.
Ah oui, quand même.
Il faut, oui, quand même, parce que moi, je connais des diététiciennes qui ne savent pas donner au moins même des petits conseils pour cuisiner. C'est un petit peu dommage. Il faut aimer travailler parce que ça demande le métabolisme, l'étude du métabolisme, de la physiologie, c'est quand même lourd. Mais on n'est pas forcément obligé de passer par la case médecine. On peut passer par la case diététique. Aujourd'hui, il y a aussi des formations qui sont plus courtes. Après, le principe de base, c'est que toi, tu peux toujours t'améliorer. C'est-à-dire et d'avoir des sources sûres. C'est ça le plus important. Parce que tu peux t'améliorer en ayant des sources sûres. Moi, je crois que, d'une manière générale, ce qui m'a toujours portée dans ma vie, c'est la passion. Par exemple, à un moment donné, je voulais faire de la médecine du travail, c'était pas passionnant. Ben, j'ai arrêté en cours de route. À un moment donné, je voulais être endocrinologue. Ça ne me passionnait pas d'équilibrer les hormones thyroïdiennes et les choses comme ça. Ben, j'ai arrêté aussi. Et ah oui, je suis allée vers la passion, vers ce qui me passionne. Eh bien, c'était non seulement d'équilibrer les assiettes, mais c'était aussi finalement d'équilibrer les vies. En tant que psychosomaticienne, justement, j'ai fait le lien. Et pour moi, ce qui me passionne le plus au-delà de la nourriture, c'est l'alignement de la personne. Et on peut faire ce genre de choses en étant thérapeute dans d'autres voies, comme l'ostéopathie, enfin, les coachs de sport, etc. Donc, on n'est pas forcément obligé de passer par la médecine, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir des sources sûres, parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur le net. Voilà.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui s'improvisent.
Ah oui.
En nutrition, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça.
Raconte n'importe quoi.
Vous pouvez jeûner, ensuite le soir vous pouvez manger. Ils disent tout et n'importe quoi. Oui. Mais c'est vrai que moi j'ai failli tomber dans ça hein, parce que j'étais vraiment obsédée par mon poids. Je voulais rester fine et tout ça.
Après, je pense que le plus important, c'est surtout de rester aussi bien dans sa tête, parce que après, les troubles du comportement alimentaire, oui, c'est un autre sujet. Mais ce qui est surtout important, c'est être très bienveillant avec nous-mêmes, et que même si on est en surpoids, à partir du moment où on accompagne cette enveloppe qui ne nous correspond pas avec beaucoup de bienveillance, eh bien, il y a déjà des résultats différents. Moi, si j'ai une personne qui fait 140 kilos, qui arrive à 100 kilos, elle sera encore en surpoids, mais elle aura fait tout un parcours, tout un cheminement, de manière à pouvoir accepter la beauté. La beauté n'est pas une enveloppe seulement, la beauté, c'est un tout. Et ça, c'est ma manière de fonctionner. Je travaille de manière très holistique, c'est-à-dire globale. Et je ne peux pas considérer que mon métier, c'est juste donner, peser quelqu'un et puis lui donner des calories. Je considère, quand quelqu'un me dit « je veux perdre 50 kilos, 30 kilos, 10 kilos », je lui dis « vous n'êtes pas un morceau de viande, quoi.
Ouais.
Hein, vous êtes une personne vivante et c'est ça qui m'intéresse le plus ».
Un grand merci à toi, Marie-Antoinette, pour cet échange enrichissant. Merci à Delila pour la réalisation de l'émission. Je suis Estelle Keïta et vous pouvez suivre l'actualité de mon émission sur Instagram et TikTok @lesrubisnoirs. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt. À la prochaine.
Merci Estelle.